Chantal, Maurice, Catherine, Louis. Ce sont des prénoms que vous m'entendez prononcer chaque semaine. Ce sont les prénoms de notre équipe à Au fil du temps, l'émission qui relie les générations et traverse le temps. Bienvenue à cette 43e émission et vous aurez compris que nous parlerons des prénoms. Car notre prénom est l'un des premiers actes intergénérationnels. Il nous est donné par nos parents et parfois influencé par les grands-parents, autrefois par la religion catholique, maintenant par la culture ou des mouvements de mode, et nous accompagne toute notre vie. Toute notre vie. Notre prénom, il est aussi le témoin de notre époque et de notre génération, de différentes influences et de vagues de popularité. Dans mon cas, j'étais sur les bancs d'école, partie d'une cohorte particulièrement nombreuse, beaucoup de Chantal et de Nathalie, alors que depuis 10 ans, il n'y a eu que seulement 13 petites Chantal qui ont été nommées. Dans les 10 dernières années, il y a eu 59 Maurice, 531 Catherine et 2918 Louis. Oh, la popularité! Alors, chers auditeurs, je ne sais pas si vous connaissez l'origine de votre prénom, sa popularité historique et pourquoi on l'a choisi pour vous. Nous allons tenter, en première partie d'Au fil du temps, d'explorer l'évolution des prénoms à travers le temps avec une Laurence. Laurence Charton est sociodémographe à l'Institut national de recherche scientifique, l'INRS. Et en deuxième partie de l'émission, nous discutons avec une Valérie. Valérie Harvey, que vous connaissez maintenant si vous êtes un fidèle auditeur. La sociologue Valérie Harvey nous a parlé récemment de son livre « Évolution papa » et tout comme Laurence, elle aime bien scruter l'évolution des relations familiales. Nous lui avons demandé de nous faire voyager en pensée plutôt dans une société qui vénère davantage ses aînés, une société qui est vieillissante. Et nous verrons l'impact de ce que ça donne, entre autres, sur la dénatalité. Les enfants de l'avenir sont moins nombreux au Japon, alors rendons leur hommage avec cette chanson « Les enfants de l'avenir » chantée par Isabelle Pierre. Tiens, deux prénoms.
Enfants de l'avenir vont savoir comment s'envoler dans l'espace, les enfants de l'avenir.
C'était « Les enfants de l'avenir » par Isabelle Pierre. C'est un article dans la Presse Plus qui a attiré notre attention sur les travaux de Laurence Charton, qui est sociodémographe à l'Institut national de la recherche scientifique, l'INRS. L'article parlait du rôle des grands-parents, le rôle, en fait, l'influence qu'ils ont ou non pas sur le choix d'un prénom. Et j'ai voulu explorer l'évolution des prénoms au fil du temps. L'influence aussi de la religion, de la culture, des icônes populaires, des tendances sur les prénoms, que ce soit composés ou des noms plus courts qui sont en palmarès ces dernières années, ou encore les prénoms non genrés. Alors, nous en parlons avec une Laurence. Bonjour, Laurence.
Bonjour.
La première question que j'ai envie de vous poser, je m'appelle Marie-Thérèse Chantal. Oui. Je pense qu'on a probablement ici un exemple de la religion et de la famille. J'étais curieuse de vous entendre un peu sur la composition de mon prénom.
Eh bien, j'imagine que vous avez été baptisée. Mm-hmm. Et donc, c'est à partir de l'acte du baptistère qu'on vous a donné ces trois prénoms. Donc, Marie, parce que vous êtes une fille. Mm-hmm. Le deuxième, c'est
Thérèse.
Chantal. Non, c'est Thérèse. Probablement, ça vient de votre marraine.
Oui.
Et Chantal, parce que vos parents, notamment votre mère, a trouvé ce prénom intéressant, charmant, et elle a décidé de vous le donner.
Oui. Donc, il y avait beaucoup cette influence-là. Marie aussi, une influence, la référence à la Vierge Marie, j'imagine.
Oui, mais en fait, dans le quotidien, on vous appelle jamais Marie, je
non.
pense. C'est vraiment toujours Chantal, mm-hmm. Ni même Thérèse. En fait, de manière systématique, toutes les personnes qui se sont fait baptiser au Québec, mm-hmm. à partir du moment où il y a eu un établissement donc on appelle ça de l'acte du baptistère, pour une fille, on mettait le premier prénom sur l'acte, était Marie. Pour un garçon, mm-hmm. c'était Joseph. Donc, effectivement, directement lié à la référence religieuse catholique.
J'ai entendu aussi également que souvent on suggérait des prénoms de saints.
Oui, 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 parce que tous les... En fait, l'Église, donc le clergé, avait mis en place des règles qui voulaient que les prénoms, en fait, fassent référence à un saint patron ou une mmh. sainte patronne qui puisse, en fait, avec l'idée de guider cet enfant, plus tard cet adulte. Donc, c'était vraiment dans les directives prônées par le clergé. Mmh. C'était aussi une façon de se rendre visible, de s'affirmer.
Oui.
Le clergé, et puis aussi c'était une façon de bien distinguer les filles et les garçons. Donc les filles avaient bien un prénom lié mm-hmm. À la Bible et plus spécifiquement au Nouveau Testament, et puis les garçons à un saint patron également. Ouais.
J'ai lu en faisant la recherche que la composition de mes différents prénoms correspond également à une façon de nommer dans le monde arabe. Le fils, la fille aînée, le grand-parent paternel, ça se peut?
Alors, ce qui se passe, c'est que, bon, dans ce que moi j'ai pu appréhender à partir d'entretiens, les personnes me disaient les premiers prénoms, c'était souvent des prénoms qui étaient décidés, qui étaient choisis par le père.
D'accord.
Et très souvent en référence à une personne admirée. À une personne admirée. Et donc, ça faisait effectivement référence à le premier prénom, donc le prénom usuel, à son propre père, donc le grand-père de l'enfant, ou le grand-père, etc. Alors, pour l'analogie, je ne sais pas, j'avoue ne pas être suffisamment spécialiste pour vous dire si ça se rattache à... Je ne sais pas s'il y a trois types de prénoms aussi qui sont transmis dans le monde arabe au nouveau-né. J'ai juste eu en fait de l'information par rapport au prénom usuel qui aujourd'hui au Québec en fait peut être encore donné à des enfants dont les parents ont des origines musulmanes ou de pays arabes.
Donc si on reste peut-être au niveau de la religion catholique, je crois que le virage vers le directeur de l'État civil s'est fait vers quoi? Vers 1994 peut-être?
Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1994, au Québec, l'État civil a été créé. Mm-hmm. C'est-à-dire que jusqu'à 1994, vous aviez la possibilité de déclarer officiellement, légalement, votre enfant par un acte, par le baptême, donc par l'acte du baptistère.
Oui.
Donc là, mais j'ai envie de dire que depuis, en fait, la Révolution tranquille, on va dire... à partir de 1960, mais plus dans les années 70, à la fin, les personnes, un certain nombre de personnes, en fait, déclaraient déjà leur enfant via un autre officier d'état civil.
Mm-hmm.
Mais en 1994, et jusqu'en 1994, effectivement, on avait toujours la possibilité de déclarer l'enfant par le baptême, ce qui fait que finalement, le clergé avait toujours encore un peu son influence ou son mot à dire en disant ben, « Votre enfant est déclaré, c'est pas très catholique ce prénom, mais où je vous encourage à choisir plutôt un prénom qu'on trouve dans les calendriers ou avec un saint patron, une sainte patronne. »
Parce qu'effectivement, il y a une plus grande liberté, mais on a vu aussi certains dérapages dans les choix de prénoms. J'imagine que vous avez des exemples à...
Alors, c'est intéressant cette question de dérapage parce que ça dépend où on se situe, où on se place et d'où l'on vient. Parce que quand on a, par exemple, quand on a grandi au Québec, on a des références culturelles, notamment aussi par rapport à des noms de blasphème, mais quand on vient d'une autre société, on n'a pas forcément ces références-là. Donc on peut, par exemple, dans certaines... Parce que je vous dis ça parce que je l'ai entendu, certains parents immigrés, ont décidé d'appeler leur enfant Chris.
Oui.
Et en fait, au Québec, ça passait très mal. Mmh. Mais ces personnes-là ne le savaient pas forcément parce qu'elles n'étaient pas au fait, en fait, de l'association, si vous voulez, avec ce prénom pour ses parents et un nom de blasphème, en fait.
Et à l'inverse, on entend aussi des prénoms d'autres origines que les gens québécois de souche ne comprennent pas, ont l'impression que c'est une création de toute pièce, alors que c'est un prénom populaire dans d'autres cultures.
Tout à fait. Et vous avez même des prénoms qui sont pas forcément courants, mais qui s'entendent ici, peut-être Lola ou Malo. En espagnol, ça signifie quand même... la douleur, Lola, ou Malo, le mal. Donc, c'est pour nous, enfin, ici au Québec, on trouve ça joli, puis ça a été aussi des prénoms qui ont peut-être été diffusés dans certains films, alors que si on va dans d'autres sociétés, eh bien, effectivement, ça peut paraître très étonnant d'appeler notre enfant de cette façon-là, quoi.
Comment on explique la recrudescence de prénoms je dirais, qu'on associait davantage à une autre époque. Il me semble ces dernières années, on a vu surgir des prénoms qui étaient plus dans ma tête des prénoms de grands-parents, mais qui tout à coup semblent faire un rebond, par exemple Simone.
Oui, alors je pense que par Simone, c'est un bon exemple. Il doit y avoir plusieurs explications. Mm-hmm. Bon, déjà, la question des prénoms, si auparavant, la plupart des personnes, ça ne les gênait pas de donner des prénoms de parents ou de proches qui étaient toujours en vie. Aujourd'hui, on remarque que les parents ne souhaitent pas forcément donner un prénom d'une personne ou dans sa lignée qui est toujours en vie. Donc le prénom, on peut le trouver joli, mais on peut décider de le donner si finalement la grand-tante ou l'arrière-grand-mère n'est plus de ce monde. Alors il y a l'idée que ça, parce qu'on l'aime bien, on le trouve joli, il y a aussi l'idée que, par exemple, si l'enfant, on décide de lui donner le nom du père, eh bien on va se dire, ben, le prénom, on va le chercher dans mon arbre, donc de l'autre parent, de la mère, ou de l'autre parent, et puis on peut regarder, et puis on peut voir Simone, c'est un prénom qui peut plaire. Donc ça, c'est une explication. L'autre explication, ça peut être aussi au fait de certaines références idéologiques ou références, par exemple, on pense beaucoup à des écrits, par exemple, de Simone de Beauvoir. Mm-hmm. Donc, il y a certaines personnes qui peuvent justement aimer les écrits, la pensée de cette écrivaine et décider de rendre hommage, d'appeler comme ça leur fille.
Laurence, je vous propose une petite pièce musicale qui est évidemment basée sur un prénom, Marie-Lou, Marie-Lou avec un Y, et on se retrouve tout de suite après.
Oh, Marilyn, Marilyn, Marie-Lou, il y a tout tant d'amour sur les roses de tes joues. Au bout du cœur, on en garde des épines. Oh, Marie-Lou, Marie-Lou, Marie-Lou. Oh, Marie-Lou, Marie-Lou, Marie-Lou. Tu mets du voile les cheveux d'acajou. Tu mets ton cœur derrière une vitrine. Oh, Marie-Lou, Marie-Lou, Marie-Lou. Oh, Marie-Lou, Marie-Lou, Marie-Lou. Dans tes 16 ans, il y a les fruits les plus doux. Des sourires dans de lait,
je ne suis pas une fourmi.
Des amours dans de l'eau,
un amour de papier,
ne sont pas éternels.
J'ai un cœur,
Marilyn, Marilou, avec tes yeux de braise,
je ne suis pas une
fourmi. Et ton cœur de velours,
et je pourrais t'aider.
Tu t'enflammeras un jour,
je ne serai jamais
un amour de passage, un vagabond d'amour. Oh, Marilyn, Marilyn, Marilou. Marilyn, 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 tu sais jouer tes appâts, tes atouts. Tu prends des poses comme dans les magazines. Oh, Marilyn, 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 Marilyn. Des sourires dans de l'air,
je ne sais pas si vous.
Des amours dans de l'eau,
un amour de papier,
ne sont pas éternels.
J'ai un
cœur, Marilyn, avec tes yeux de braise,
je ne suis pas jouer.
Et ton cœur de velours,
et je pourrais t'aider.
Tu t'enflammeras un jour,
je ne serai jamais.
Pour un amour de passage, un vagabond d'amour. Oh, Marilyn, Marilyn, Marilyn. Marilyn, Marilène, Marilou. Dans les saisons, il y a les fruits les plus doux. Et les pépins collent dans les mandarines. Oh, Marilou, Marilène, Marilou, Marilou.
C'était Marilou de Daniel Guérard. Marilou avec un Y et Daniel avec un Y. De retour avec Laurence Charton, sociodémographe à l'Institut national de la recherche scientifique, pour parler de l'évolution des prénoms. Alors, Laurence, on voit dans ces deux prénoms-là qu'il y a un Y. Et j'étais un peu curieuse de voir comment ça affecte l'influence entre les prénoms plus originaux et les prénoms plus classiques.
Les prénoms classiques, déjà, qu'est-ce qu'on entend par classique? C'est un peu des prénoms un peu intemporels.
Oui, qui traversent le temps.
Oui, qui traversent le temps. Et aussi, qu'on peut considérer qu'un enfant, un nourrisson, peut porter un prénom classique. Ensuite, il grandit adolescent, adulte, grand-parent. Et à la même période, si vous voulez, vous pouvez avoir des personnes d'un même prénom qui vient de naître ou qui sont grands-parents. Donc il y a ce côté-là au niveau de la présence mm-hmm. d'un prénom classique. Les prénoms originaux, c'est un peu des prénoms, je pense, qui s'écartent des répertoires du calendrier religieux, essentiellement, mm-hmm. ou c'est des prénoms qui s'écartent par justement l'écriture. Vous signaliez Daniel avec un Y.
Oui.
Alors, on veut être original, mais pas trop. Et puis l'originalité, là, peut-être, ça passe par la manière dont la graphie du prénom, quoi, la manière dont on écrit ce prénom-là.
On a entendu dans l'histoire, justement, la fameuse anecdote du spatule, d'un couple là, qui avait baptisé leur enfant Spatule.
Oui, mais je pense que justement, ça reste anecdotique dans le sens que ça doit être extrêmement rare.
Mm-hmm.
Ceci étant dit, ça serait intéressant de savoir si ces personnes, elles sont d'ici, du Québec, mm-hmm. ou si peut-être Spatule ailleurs, ça veut dire autre chose.
Mm-hmm.
Je ne sais pas. Ça serait quand même intéressant de vérifier. Sinon, ce qu'il faut savoir, c'est vrai que depuis la Révolution tranquille, depuis 1994, les parents ont plus de choix de prénoms, de diversifier les prénoms. Et aussi, l'immigration a apporté finalement des nouveaux prénoms.
Oui.
Et également, tout ce qui est la transformation de la société avec les médias sociaux, avec les films internationaux, etc. Donc ça a permis d'élargir l'éventail en fait des prénoms possibles donnés à son enfant.
Je regardais un peu les prénoms les plus populaires des cinq dernières années et je me rends compte que ce sont des prénoms quand même assez courts. Liam, Olivia, Emma, Alice, Thomas, Charlie, Léo. Contrairement à ces dernières années, il y a peut-être 10 ans, il y a eu une mode là, des prénoms composés. J'étais curieuse de vous entendre sur l'évolution des prénoms dans ce contexte-là.
Oui. Alors, les prénoms composés, c'était déjà une première forme d'originalité.
Mm-hmm.
C'est-à-dire...
C'est pas toujours heureux.
Là, encore une fois, c'est une affaire de goût, je pense. Mais ça apportait en tous les cas de l'originalité.
Mm-hmm.
Ça permettait, tout en étant finalement pas hors champ, puisqu'on reprenait des prénoms existants, mais en y associant deux prénoms, eh bien, ça apportait de l'originalité. C'était un peu, je pense, ce qui était recherché par les parents, de distinguer leur enfant. Maintenant, au niveau des prénoms courts, je pense que plutôt ce sont des prénoms internationaux,
mm-hmm.
dans le sens que ce sont des prénoms qui se disent relativement facilement plusieurs langues et qu'on trouve, notamment, je pense, au Québec, faut pas oublier, même si on est une société francophone, on a une forte influence anglophone. Mm-hmm. Et donc, je pense que cet élément-là entre en compte, en fait.
Le fait, justement, d'avoir le nom de famille également dans d'une société où on avait eu, justement, à une certaine époque, beaucoup les deux noms de famille et on avait aussi des enfants qui avaient un prénom composé et deux noms de famille. Ça devient complexe.
Alors, ça devient complexe, je dirais peut-être pour les autres. c'est-à-dire qu'en fait, les personnes qui le portent se rendent compte finalement que la complexité, c'est parce qu'on leur dit que c'est complexe, parce qu'on leur dit, ben, écoutez, non, dans un formulaire, votre nom et prénom, c'est trop long, vous pouvez pas inscrire tout cela. Donc, autrement dit, ces personnes ne répondent pas à une certaine norme, à ce qui est normalement attendu d'un prénom et d'un nom de famille. Mais si vous voulez, on peut regarder d'autres sociétés, notamment d'influence hispanophone. Les personnes ont toujours porté deux noms. Et je pense qu'il n'y a jamais eu de discussion sur le fait que c'était trop long ou trop court. Et aussi, très fréquemment, dans certaines sociétés, on y ajoute aussi, par exemple pour des filles, Maria, Maria Constanta, Maria Génia, Maria, etc. Donc, c'est une perception aussi que l'on a, mais qui nous est aussi donnée par le fait des formulaires, par exemple, administratifs. Ça rentre pas dans les cases, quoi. Donc, oui. Ce qui est intéressant, justement, vous faisiez la référence sur le nom de famille, c'est qu'en fait, au Québec, depuis 1980, les parents doivent choisir le nom qu'ils vont transmettre à leur enfant. C'est-à-dire qu'avant, si un enfant naissait dans le cadre d'un mariage, systématiquement, il recevait le nom du père. Et s'il naissait pas dans un mariage, il recevait le nom de la mère. Bon, il y a eu des changements au niveau du droit de la famille. Et depuis 1980, les parents doivent décider quel nom ils vont donner, le nom du père, le nom de la mère, enfin, ou les noms de l'un des parents ou de l'autre parent, séparément. Associés, donc un double nom, mais ils peuvent également transmettre des noms différents aux enfants de la même fratrie. Donc ce qui est intéressant ici, notamment pour le prénom, c'est qu'il peut y avoir aussi des stratégies, c'est-à-dire, comme je vous le disais précédemment, si on donne le nom du père, eh ben, on va choisir le nom peut-être du côté de la mère. Là on peut observer que certaines parents décident, par exemple, de faire des lignées.
Laurence, on doit malheureusement terminer cette belle entrevue. Je crois qu'il y aurait beaucoup à dire sur l'évolution des prénoms. Donc, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Merci d'avoir été à Au fil du temps.
Avec plaisir.
Au revoir.
Vous écoutez Au fil du temps avec Chantal Doré.
Vous avez envie d'écouter les 42 autres épisodes d'Au fil du temps? Rendez-vous sur canalm.vuesetvoix.com et nous sommes également en direct si vous êtes dans votre voiture le jeudi midi à CKVL. Également, si vous êtes fervent de grandes marches avec un balado, je vous suggère de nous écouter sur Spotify, Apple Balado ou Google Podcast. Pour rester dans l'imagerie des prénoms, voici Elisa de Serge Gainsbourg.
Elisa, 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 saute-moi au cou, Elisa. Elisa, Elisa, cherche-moi des poux, enfonce bien tes ongles et tes doigts délicats dans la jungle de mes cheveux. Elisa, 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 saute-moi au cou. Elisa, 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 cherche-moi des poux, fais-moi quelques anglaises. Et l'arrêt au milieu, on a 13, 14 ans à nous deux. Elisa, 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 les autres on s'en fout. Elisa, 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 rien que toi, moi, nous, t'es 20 ans et 40. Si tu crois que cela me tourmente, ah non. Elisa, 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 saute-moi au cou. Elisa, 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 cherche-moi des poux. Enfonce bien tes ongles et tes doigts délicats dans la jungle de mes cheveux, Elisa.
C'était Elisa de Serge Gainsbourg. Nous retrouvons Valérie Harvey, qui est une fidèle d'Au fil du temps que nous avons entendue dernièrement pour son livre Révolution Papa. Et aujourd'hui, elle nous parle d'une société qui est au cœur de ses passions, le Japon, une société qui fait honneur à ses personnes âgées, mais qui est aussi une société vieillissante. Et nous allons voir un peu l'impact de ce vieillissement sur cette société. Bonjour Valérie.
Bonjour Chantal.
Alors, c'est une des sociétés les plus âgées, le Japon.
Oui, oui, si je ne me trompe pas, c'est même la plus âgée au monde. Oui, oui, en 2018, l'âge médian était de 48 ans, ce qui veut dire en fait que plus du tiers de la population a 60 ans et plus. Donc, c'est une société qui n'a pas beaucoup de remplacement de population depuis plusieurs dizaines d'années. Là, on ne parle pas, c'est pas récent. Et ce n'est pas parce qu'ils limitaient les naissances comme en Chine. Au contraire, là, les politiciens aimeraient beaucoup que les femmes aient plus d'enfants, allant jusqu'à les traiter de paresseuses.
Ah, quand même, hein? Alors, on avait des remontrances avant avec la religion catholique d'empêcher la famille. Donc, au Japon, elles sont paresseuses.
Oui, ça a l'air qu'ils sont paresseuses. Ça, je ne sais pas si c'est un encouragement qui fonctionne très bien. En tout cas, si je regarde les dernières statistiques, ça n'a pas marché.
Et je sais que c'est une société où il y a plusieurs centenaires.
Oui, oui. En fait, ça, c'est étonnant. Ben, pas vraiment. C'est une des choses qui contribue à ce qu'on dise que c'est une société vieillissante. C'est que les gens restent en vie très longtemps. On s'entend que quand ça va pas bien côté mortalité, ça fait des sociétés qui sont plus jeunes déjà à prime abord. C'est un des critères. Donc, le Japon soigne très bien ses gens et généralement, l'alimentation était excellente. Donc, ça aide beaucoup. On mange beaucoup de poissons, quand même assez beaucoup de légumes aussi. Donc, on n'est pas dans les nourritures très grasses. On avait un mode de vie aussi. J'aime beaucoup la philosophie sur les îles de Okinawa. C'est là qu'on trouve le plus de longévité, donc de plus de centenaires. Et là-bas, sur les îles du Sud, c'est un peu comme leur Floride à eux, là. ils ont la philosophie Ikigai, qui est une philosophie de vie qui est beaucoup plus large que l'alimentation, qui implique qu'on soit avec son voisinage, en lien, qu'on soit intégré, qu'on ait toujours des activités. Donc, on n'arrête jamais de travailler, si on veut, on peut le voir un peu comme ça. On est toujours investi dans ce qu'on fait, mais ça nous garde au centre de la communauté. Et ça fait que les gens, non seulement parce qu'ils mangent bien, parce qu'ils peuvent faire beaucoup d'exercices, fait beau sur Okinawa, on s'entend que c'est pas un climat très froid. Donc, ça leur permet d'avoir beaucoup, beaucoup de centenaires sur ces îles-là.
J'avais cru comprendre que l'ikigai est un concept qui parlait de notre vocation, d'être vraiment sur notre X, mais je peux faire des liens de dire que si on continue à jouer un rôle actif, on est à quelque part en train d'assumer notre vocation dans notre communauté.
C'est un peu, oui, mais tu sais, il faut toujours faire attention aux philosophies qui nous semblent toutes belles. L'ikigai peut avoir un beau côté justement de la vocation, c'est-à-dire que si tu aimes ça être fermier, puis si c'est ton ikigai d'être fermier, ben tu vas l'être jusqu'à la fin de ta vie, parce que la relation, la façon de voir un peu la relation au travail dans l'ikigai, c'est que ça te garde actif, puis il faut que tu trouves ce chemin-là. Sauf que si jamais c'est plus ça qui te fait vivre, ne serait-ce parce qu'on change dans la vie, ou ben ça c'est plus difficile là, d'aller vers ça, c'est des choses qui viennent un petit peu te bloquer parce qu'on voit comme cette vocation-là qui va durer jusqu'à la fin de ton existence, qui peut être très long. Ça peut aller donc dans un sens et dans l'autre.
J'ai entendu aussi que dans les bonnes pratiques pour vieillir en santé avec grâce et en forme, et on en a parlé d'ailleurs abondamment ici à Au fil du temps, en plus de l'exercice et de l'alimentation, il y a toute la relation justement au voisinage et à la communauté. Et je crois que c'est assez fort chez les Japonais.
Oui, puis ça, c'est une des choses qu'on pourrait importer ici sans mal, parce que les études scientifiques sont très nombreuses à montrer que les retraités, les gens qui sont les plus âgés, mais qui vont être les plus actifs, qui vont avoir le plus de bonne santé aussi mentale, sont souvent ceux qui sont dans leur communauté, qui continuent d'être présents, qui ont beaucoup d'amis, qui ont beaucoup de toutes sortes d'activités qui sont autres. Puis ça, j'ai l'impression que c'est... On parle beaucoup de l'alimentation, on nous parle beaucoup de notre exercice physique, et je pense qu'on a une petite tendance à négliger cet aspect social. C'est que c'est fou, par exemple, de se rendre compte à quel point on est des petites bêtes, les êtres humains,
On
les
le
petites
vit en ce
bêtes.
moment, on s'en rend compte à quel point ça nous manque.
Ben, mon Dieu, si ça peut nous permettre de s'en rendre compte encore plus longtemps, de savoir à quel point ce lien-là est important. Et oui, en ce moment, on manque du lien physique. Mais c'est pas pour rien qu'on a inventé les réseaux sociaux, hein. Je veux dire, on peut leur reprocher bien des choses, mais c'est arrivé avant la pandémie. Et je pense que si c'est arrivé, c'est qu'on était déconnecté un peu d'un lien dont on avait besoin. Fait que technologiquement parlant, on s'en est créé un qui a des failles immenses, mais qui reste, qui c'était le but, si on veut, derrière ça, enfin, qui viennent combler. Et c'est pour ça que ça a beaucoup fonctionné. Donc, on doit entretenir nos liens parce que c'est ça qui contribue à notre santé et même à notre santé physique. Donc, ça va plus loin que ce qu'on peut imaginer.
Bien, en fait, on parle des réseaux sociaux, mais il y a une présence. J'avais lu dans la préparation pour cette émission un proverbe intéressant qui dit vous pouvez mener votre vie sans cousin, mais pas sans voisin.
Donc, entends-toi bien avec ton voisin. C'est un peu ça que ça voulait dire. Donc, au Japon, on est effectivement, ce qui est assez particulier, c'est que non seulement c'est une société collective, mais quand on entrait dans une compagnie de la même façon que l'ikigai, on trouvait sa vocation pour le reste de sa vie, bien, les compagnies, dans l'ancien modèle, c'est moins le cas aujourd'hui. Les compagnies devaient s'assurer de notre bien-être. Du début jusqu'à la fin. Donc, on entre dans cette compagnie-là, on avait un salaire qui était régulier, qui n'allait jamais être immense. Le Japon n'est pas reconnu comme les États-Unis pour des grandes inégalités de salaire, mais qu'on allait donc prendre soin de vous, on allait même vous fournir l'appartement. Et vous alliez, si vous avez des enfants, avoir donc un appartement qui allait être plus grand, qui allait s'adapter à cette nouvelle famille que vous fondiez, etc. Donc, vous devez, oui, bien vous entendre avec vos collègues de travail parce que ce sont aussi vos voisins. Donc, si la femme du patron ne vous plaît pas, ben faites avec parce qu'elle va être là longtemps, elle vit dans le même immeuble que vous. Et donc, c'est une des choses qui a contribué, je pense, à forger des liens de communauté parce que d'une certaine manière, on n'avait pas le choix, mais ça a beaucoup aidé aussi au soutien parce qu'une personne âgée ne sera jamais. C'est moins vrai aujourd'hui, mais elle n'était jamais laissée seule parce que même après sa retraite, elle était toujours dans, si on veut, un représentant de la compagnie. Donc, elle n'était pas complètement abandonnée, mise de côté. On ne sortait pas de la vie de la compagnie aussi facilement qu'on peut le faire ici. Donc, ici, on nous donne une belle montre en or si on est chanceux. Et puis, ben, c'est bye-bye. Donc, on revoit ses collègues si on a réussi à se faire des amis, mais on n'est pas. Il y a plus trop de liens, là. Donc ça, au Japon, on gardait, tu sais, si on habitait dans l'immeuble du building, ben on pouvait garder quand même un lien avec ces gens-là de façon beaucoup plus continue. Et ça, c'est intéressant.
Est-ce qu'on peut faire un parallèle, Valérie, avec le fait que d'un autre côté, on s'assure justement de ne jamais faire perdre la face à personne pour garder ces liens-là, parce qu'on sait qu'on va rester près longtemps?
Oui, il y a du donnant-donnant, hein? Donc c'est sûr que vous devez être gentil, puis les gens vont être gentils parce qu'ils savent que de toute façon, sinon il faudrait changer de compagnie puis changer de travail. Donc voyez-vous, on peut pas déménager comme ça. Bon, ça c'était dans l'ancienne situation. Maintenant, les emplois comme ça qui sont permanents, qui sont très stables, sécuritaires, sont beaucoup plus rares. Et le Japon assiste à un changement aussi au point de vue de cette structure-là. Puis bon, ben les Maintenant, les enfants sont beaucoup plus rares aussi. Depuis les années 70, en fait, les Japonais ont un taux de remplacement de la population qui est en bas de 2,1, là, qui est le nombre
Ah, c'est
d'enfants
très
par
peu,
femme
hein?
qu'on donne toujours. Non, ils n'ont pas ça, là. Ils sont à 1,4, 1,5, 1,5, 1,6 mm-hmm. dans les meilleures années depuis 50 ans. Donc, ça fonctionne pas. On le voit maintenant, la situation est grave. Donc, le Japon est à 100, 126 millions en ce moment et mm-hmm. ça baisse constamment. Si ça continue comme ça, on pense qu'en 2050, là, on va avoir perdu 44 millions de personnes. C'est une baisse de 70%. Et bien, ouais. il y a des livres catastrophiques que j'avais lus en japonais là, qui avaient des graphiques à l'intérieur qui représentaient qu'en 2350, il ne resterait que 500 ouais, japonais. Si on continue à ce rythme-là. Oui, moi, j'avais été assez troublée. Mm-hmm. Puis quand j'avais montré ça à mes amis japonais, ils avaient fait comme « Oh non, oui! » Donc, c'est sûr. Mais bon, on parle d'un pays qui il y a une je dirais qu'il y a une relation assez complexe avec l'enfant. Hein. On l'a vu, hein, on a une relation très proche avec le travail, qui n'est pas mm-hmm. seulement un travail, hein, qui est une vocation, qui ouais. est... On a un lien d'attachement à son travail qui est presque un lien de fidélité, comme un peu le guerrier...
d'honneur.
En avait. Ouais. Oui, c'est ça, c'est un clan. Donc, c'est sûr que on travaille donc... le temps qu'ils nous le demandent de le faire. Mm-hmm. Et ce sont des heures supplémentaires qui s'accumulent, ouais. qui ne laissent pas de place à avoir une famille. Quand même qu'on voudrait en avoir une, et c'est un petit peu le cœur de ma maîtrise à l'époque, là, mm-hmm. j'avais interviewé beaucoup de femmes qui en avaient ou qui n'en avaient pas d'enfants, et je voulais savoir s'ils en voulaient. Puis, ben oui, il y en a beaucoup qui en voudraient, mais elles travaillent.
Donc, cette charge-là, elle est grande. Et je lisais aussi que dans le cas où on héberge les parents, ce sont souvent les femmes, finalement, qui deviennent les aidantes naturelles.
Oui, ça, c'est intéressant parce que j'entends souvent vanter ce modèle. Hein. Mm-hmm. Dans toute l'Asie, en fait, les maisons bigénérationnelles sont souvent un modèle qui est utilisé parce qu'il n'y a pas de soutien de l'État. Mm-hmm. Fait que c'est pas une question de choix, là. Vous n'avez pas d'autre choix que ça. Si vous voulez que votre grand-maman, votre maman, en fait, puisse continuer de vivre dans une maison et non pas être en hôpital, en soins de longue durée. Là, c'est à mm-hmm. peu près le seul autre moyen qu'il y a. Puis bon, ben, c'est pas super, là. Ben, vous l'avez chez vous. Et ça, ben ça veut dire que c'est pas le fils. Le fils, il travaille 70 heures, 60 mm-hmm. heures semaine. C'est souvent la belle-fille ouais. qui va s'en occuper parce qu'elle, de toute façon, elle a probablement laissé son emploi pour s'occuper des jeunes enfants. Donc là, est-ce que c'est ça comme modèle? On vend ça sans savoir c'est quoi le côté mm-hmm. plus sombre de ça, hein, qui quand même... Qui garde les femmes, si on veut, dans une espèce de rôle que toutes ne veulent pas. Et ça paraît parce qu'on le voit changer. On voit que maintenant même, avant, il y avait des poursuites. Les Japonais
oui, j'ai
âgés,
vu ça!
qui poursuivaient leurs enfants en leur disant « tu t'occupes pas de moi ».
Donc on obligé. Devait assistance. Comme un peu certains enfants à l'université qui ont poursuivi leurs parents en disant « je suis aux études, tu dois continuer à me faire vivre ».
Paye pour moi, exactement. Donc ça, au Japon, c'était quand même assez rare. C'était ouais. pas rare qu'il y avait des poursuites. Là, maintenant, ça l'est. C'est devenu très rare. Et même d'après un sondage assez récent, seulement 10% déclarent encore s'attendre à être pris en charge par leur famille, ce qui est une baisse immense, mm-hmm. parce que c'était la norme, normalement. Et là, le Japon, l'État japonais, en fait, est pris un peu avec le problème, parce que qu'est-ce qui arrive? Non seulement... y en a qui n'ont pas d'enfants. Il y en a une vaste majorité des personnes mm-hmm. âgées qui n'en ont jamais eu. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Il n'y a personne pour s'en occuper. Et en plus, il y en a beaucoup que leur enfant soit peut pas s'en occuper. Il est dans un autre, il peut être dans un autre pays, il peut être dans une autre ville très loin, il peut ne jamais s'être marié, donc ne pas avoir de femme qui serait mm-hmm. Encline à s'en occuper. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il n'y a pas presque d'argent qui est investi dans des soins aux personnes âgées, donc ça reste un problème. Heureusement, la plupart des Japonais âgés, pour l'instant, sont quand même en bonne santé, mm-hmm. donc ils sont intégrés dans leur voisinage, donc c'est là qu'il y a une espèce d'entraide qui leur permet, si on veut, de ne pas avoir une situation trop catastrophique. Mais ça reste que beaucoup sont seuls et oui. demandent à avoir des soins. Puis là, ça commence à être vraiment problématique pour l'État japonais. Depuis plusieurs années, là, c'est un problème qui revient régulièrement dans l'actualité comme quelque chose. Et ça va aussi loin que parfois, le fils, on a entendu parler mm-hmm. L'été passé, dernièrement, le fils peut se retrouver presque à la retraite ou avoir perdu son emploi, le fils de 55 ans ou 60 ans. Et il est toujours chez ses parents, et c'est ses parents âgés de 85 ans qui prennent soin de leur fils. Voyez-vous là à quel point c'est problématique là, au Japon, mais en même temps, ça démontre qu'on est toujours lié avec sa famille et son mm-hmm. voisinage de très, très proche. On ne peut pas abandonner cette relation-là.
Ben, c'est de l'inspiration de part et d'autre. C'est effectivement intéressant. Merci beaucoup, Valérie, de nous avoir dépeint ce portrait-là. Effectivement, des fois, on en vit une situation où on la porte un peu sur un piédestal, mais c'est intéressant de voir que c'est beaucoup plus complexe que ça semble sur papier. Alors, Valérie, pour terminer, je t'offre une chanson de France Gall, « Poupée de son » en japonais.
Oh, merci!
À bientôt!
Chanson à foule et l'unio. Watashi wa kile ina chanson et yo. Kono yo wa bala ilo no bonbon mitaine. Watashi no uta wa dare demo kikeru wa. Minna watashi no sugata mo mieru wa. Chanson qui te odori dasu Minata no shiso ni shite iru kedo Honto no ai nante uta no dakara ke yo. Kikeru wa minna watashi no sugata mo mieru wa watashi wa tokidoki tame iki tsuku otoko no kohitori mo shiri mo shinai no ni ai no uta uta u sono sabishisa watashi wa tada no ninyo sore demo itsuka wa omoi wo kometa chanson utaatte doko ka no tsuteki na dareka san to kuchisuke shitai wa.
C'était « Poupée de son » de France Gall en japonais. Et évidemment, je ne pourrais pas le prononcer, mais c'est toujours intéressant d'entendre des voix qu'on connaît parler dans d'autres langues. Je demandais à Valérie pendant la pause de m'aider à prononcer le titre d'un livre dont j'ai envie de vous parler. Je ne crois pas que je le prononcerai bien, mais essayons-nous. Ça parle de « Kintsukuroi ». Alors, qu'est-ce que le Kintsukuroi? En fait, c'est l'art qu'on utilise. C'est un art ancestral qui consiste à réparer la porcelaine brisée en appliquant de l'or sur les fêlures. Donc, c'est un livre dont le titre est « L'art de guérir les blessures émotionnelles » et ça utilise des références à cet art ancestral japonais pour dire que par analogie, nous devons tous faire face à des épreuves, des deuils et que les réussir à les surpasser, c'est comme mettre de l'or sur nos fêlures. Donc, c'est comme un mélange de symboles de fragilité, mais que ces fractures-là, en les solidifiant avec de l'or, deviennent quelque chose de beaucoup plus solide. Donc, voilà, c'est un livre qui, en ce moment, est sur ma table de nuit de lecture de lectrice compulsive Kintsukuroi, qui incidemment est écrit par un psychologue espagnol, Tomás Navarro. J'espère que je l'ai bien dit. D'autre part, j'ai envie de vous parler d'un article qui a été publié dans le Devoir aujourd'hui, un article signé de la plume de l'excellente Josée Blanchette, qui s'appelle « L'art de bien vieillir. José parle à quel point les gens plus âgés ont toujours été des influences, des sources d'apprentissage pour elle. Et je trouve vraiment intéressant qu'elle cite notamment Laure Adler, qui est une célèbre journaliste, autrice, animatrice de l'Heure bleue sur France Inter, qui dit la phrase « Vivre sa vie a toujours été un métier difficile. Vivre le rapport au temps qui passe devient un sport de combat. » Pas tellement encourageant, mais c'est un article vraiment intéressant où José Blanchette cite notamment Jocelyne Robert pour son livre « Vieillir avec panache ». Jocelyne Robert que nous recevrons la semaine prochaine au fil du temps. Et il y a quelque chose qui m'a particulièrement touchée dans cette chronique de José Blanchette. C'est une référence à son père. Elle dit « J'aurais aimé connaître mon père en vieux. Il aurait eu 85 ans le mois prochain. J'ai eu une pensée pour le 18e anniversaire de sa terrible disparition cette semaine. » Donc, c'est un article que je vous suggère, dans lequel, justement, elle fait des références un peu qui sont en parallèle avec ce qu'on vient de parler avec Valérie Harvey. Le sentiment de responsabilité envers les vieux parents selon les cultures. C'est une étude d'Ipsos en 2019 où on dit que les Chinois ont ce sentiment de responsabilité-là à 82 % et les Canadiens à 44 %. Donc, c'est dans le Devoir d'aujourd'hui, vendredi, d'aujourd'hui au moment où on enregistre, le vendredi 16 avril, José Blanchette, que vous retrouverez aussi sur Internet. On retrouve également au fil du temps maintenant sur Internet, mais aussi sur Facebook. Nous vous donnons rendez-vous, toute l'équipe, c'est au fil du temps Canal M. Nous allons publier régulièrement des contenus sur les liens intergénérationnels et on cherche d'ailleurs des duos de grands-parents et de petits-enfants pour la semaine intergénérationnelle. Je vous offre en dernière pièce musicale Portrait numéro 4 des Cowboys fringants. Il y a d'ailleurs un film qui vient tout juste d'arriver dans quelques cinémas, les cinémas qui sont ouverts. Je pense que moi, ce sera probablement sorti cette fin de semaine. Je renouerai avec le cinéma depuis très longtemps et c'est d'un bonheur que j'avais beaucoup envie de retrouver. C'est donc un film d'inspiration sur l'œuvre des Cowboys fringants et voici Portrait numéro 4.
Je suis diplomate, diplômé. Je sais toujours de quoi parler. Je suis à l'aise entre deux chaises. Fantastique, je suis charmant et bien élevé, je vis sur du temps.
La chanson s'appelle Portrait numéro 4 des Cowboys fringants et le film dont je vous parlais s'appelle L'Amérique pleure en honneur d'une de leurs grandes chansons. Un grand merci à nos invités Valérie Harvey et Laurent Charton, à nos collaborateurs réguliers Maurice Bolduc en régie, Catherine Bourderon à la recherche et Louis Garon, chef d'antenne. La semaine prochaine, donc, je vous en ai brièvement parlé, Jocelyne Robert, communicatrice et sexologue pour Vieillir avec Panache aux Éditions de l'Homme et le radioroman des deux Louises qui sont de nouveau avec nous. Alors, chers invités, je vous souhaite de ne pas vivre sur du temps emprunté, comme on le disait dans la chanson Portrait numéro 4 des Cowboys fringants. On se retrouve la semaine prochaine en vous souhaitant des bonheurs tout doux. À très bientôt!